Là, si on regarde un peu l'histoire des techniques, c'est depuis très longtemps, les technologies sont inventées pour un usage et les utilisateurs le transforment, cet usage. Hein.
Pour contacter l'émission en direct, notre site internet impatience.rsr.ch ou par SMS au 939 en commençant votre message par « science ».
Vient de paraître aux éditions FIP les médias géolocalisés, sous-titré « Comprendre les nouveaux espaces numériques ». Et c'est signé Nicolas Nova. Sarah Diren, lui, c'est vraiment un des rares spécialistes qui se soit penché sur cette question.
Oui, exactement. Rares sont les études complètes hein, sur les médias géolocalisés. Nicolas Nova en fait donc partie. Il est prospectiviste, il mène des recherches sur les usages des technologies et justement, il a fait sa thèse à l'EPFL sur les médias géolocalisés et les technologies mobiles. Mais je vous rassure tout de suite, hein, son livre est grand public, tout à fait accessible. Un livre sur l'histoire, le fonctionnement, les applications, les enjeux, les limites, les fantasmes aussi des médias géolocalisés. Limites techniques hein, aussi ou politico-économiques, comment par exemple partager des données entre concurrents de téléphonie mobile, comment passer d'une technologie GPS à la Wi-Fi. Ce sont des questions qui sont également abordées dans ce livre. Mais je crois que j'ai oublié de dire l'essentiel. Quand on parle de médias géolocalisés, on parle de quoi finalement ?
T'es où ?
Exact.
Ça pourrait être ça, effectivement. C'est dans la plupart des cas les applications qui sont basées sur l'idée de répondre à cette question du T.O. qu'on se pose au téléphone et de fournir une réponse automatique sur le téléphone, par exemple. Mais ça peut être bien autre chose. Ça peut être la divulgation, le transfert de contenu particulier sur les informations culturelles de la ville, donc d'être au courant en se déplaçant dans l'espace où sont certains spectacles, où sont des restaurants, des diffusions de vidéos, de petits films, en fonction de où on se déplace dans la ville ou de musique. Il y a divers projets de ce genre qui existent. De jeux géolocalisés aussi, il y a plusieurs laboratoires de recherche qui travaillent sur comment enrichir le jeu dans l'espace urbain avec la géolocalisation. Donc ça donne des chasses au trésor dans la ville, ou des chasses à l'homme, ou des groupes d'utilisateurs se baladent avec des téléphones qui ont un GPS pour pouvoir qui retrouver un trésor, qui retrouver une personne qui se déplace dans la ville, et donc d'essayer d'étendre le répertoire du jeu vidéo dans l'espace physique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se déroulent dans le monde de l'art, en fait, qui sont assez intéressantes et qui se réapproprient la géolocalisation et ses technologies pour interroger les risques, les enjeux et les limites de celles-ci en retournant, par exemple, la géolocalisation. Il y avait un projet très intéressant de géolocaliser les caméras de surveillance de la ville, en fait, qui consistait à recréer sur des cartes la position de toutes les caméras de surveillance et vous donner par géolocalisation, les chemins pour éviter justement ces caméras. Et ça, ces choses-là sont un peu moins mentionnées, sont un peu plus anecdotiques, soit dans le monde de la recherche, soit dans le monde artistique, mais elles sont à mon sens très intéressantes parce qu'elles montrent d'autres pistes possibles qu'on laisse un petit peu de côté quand on pense à ces trois scénarios de départ du TU, de divulgation de contenu ou d'avoir des systèmes de marketing qui vous donnent des réductions pour aller dans certains magasins.
Mais lorsque vous parlez justement, Nicolas Nova, de réductions dans certains magasins, ça veut dire que vous baladez dans la ville et vous avez une petite alerte. Vous êtes client chez nous, vous avez une réduction, c'est ça hein ?
C'est exactement ça, ouais. Et c'est vraiment des scénarios un peu stéréotypés, comme s'il y avait une sorte de réinvention de la roue, en fait, sans avoir trop compris que ça ne marchait pas toujours très bien, hein, surtout dans le monde occidental. Ça marche un peu plus dans les pays asiatiques qui ont une culture un peu différente de la vie privée et des usages des technologies. Tout l'enjeu en fait, de ces médias géolocalisés et de cette technologie, comme celle des RFID d'ailleurs, et finalement toute technique qui est apparue, c'est qu'il y a un imaginaire qui se construit autour qui vient finalement heurter nos pratiques et nos sensibilités. Et dans le cadre de la géolocalisation, ce qui vient heurter, c'est l'intrusion dans la vie privée, de savoir où on est dans l'espace. C'est quand même un petit peu terrifiant dans l'absolu. Après, quand on regarde les technologies en tant que telles, on voit que c'est pas si simple et qu'on n'est pas toujours tracé, que ça marche pas toujours techniquement, que souvent il faut donner soi-même ces informations, etc., etc. Mais ce qui compte là-dedans, c'est la représentation et l'imaginaire qui se crée autour et qui fait peur, donc qui limite son appropriation. Donc ça, c'est une chose. Il y en a une deuxième, en fait, liée un peu à la manière dont nous, en tant qu'individus, on peut utiliser ces technologies, c'est que bien souvent, ça fonctionne pas forcément dans nos pratiques et dans nos usages actuels, parce qu'on n'a pas toujours envie de révéler à nos amis où on est, parce que quand on vient de se faire 3 heures de train et qu'on est en train de rentrer de Zurich, il y a quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule pour vous dire « Ah, je viens de te voir sur le service géolocalisé, t'es là, est-ce qu'on peut parler ?» qu'on est fatigué, ça marche pas. Donc il y a toujours ces espèces d'exceptions, de moments où on serait d'accord pour transmettre ces informations et d'autres où non. Parfois on serait d'accord pour les divulguer à certaines personnes, des amis proches mais pas à des amis plus éloignés. Et au final, la mauvaise gestion par ces services géolocalisés collectifs est un problème.
C'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Alors vous avez un mobile là qui vient de sonner, Nicolas Nova. Non, non, mais répondez. Vous ne voulez pas répondre. Sur votre portable, justement, il vient de sonner, Nicolas Nova. Vous avez tout un système de géolocalisation. Qu'est-ce que vous avez mis que nous ne connaissions, nous, néophytes?
Alors, oui, moi j'ai un des derniers nés qui est Google Latitude, que j'utilise pas tellement pour géolocaliser mes amis ou pour divulguer ma présence aux autres, mais plus pour savoir comment ça fonctionne, quelles sont les limites, ce qui marche pas. Et forcément, pour parler sur ces sujets, il faut connaître un peu toutes ces applications, donc j'ai ça sur le téléphone.
Et ce Google Latitude, qu'est-ce que c'est?
C'est en fait un système de cartographie qui permet de définir où vous êtes posé dans l'espace et où sont les autres. Mais c'est à vous de définir en fait cette information avec certains niveaux de précision, et suivant les contacts que vous avez, que vous pouvez rajouter, vous pouvez voir leur position géographique.
Si personne ne ment.
Si personne ne ment. Et justement, l'intérêt d'un système comme celui-là, et que je vois moi comme un facteur de succès pour ces technologies, c'est la possibilité de mentir. Puisque mentir, c'est projeter une autre image, et donc faire accepter aux autres qu'on n'est pas forcément à l'endroit où l'on est. Et donc, dans ce cas-là, on est un peu plus confortable avec les problèmes de vie privée. Alors ça, c'est une notion qui est assez difficile à faire passer, hein, notamment à certains concepteurs qui aimeraient soit automatiser la géolocalisation de chacun, parce qu'on n'aurait pas à rentrer dans le système, donc il y aura un coût moins important. Mais en même temps, le fait de pouvoir mentir permet justement de détourner la technologie, ce que je trouve finalement très intéressant.
Détourner la technologie, Nicolas Nova, c'est peut-être ce qu'on fait tous.
Là, si on regarde un peu l'histoire des techniques, c'est depuis très longtemps, les technologies sont inventées pour un usage et les utilisateurs le transforment, cet usage. Hein, le téléphone, à la base, ça n'a pas du tout été pensé pour la communication interpersonnelle. Hein. Le téléphone, c'était au début, on se posait la question du militaire ou le transfert de concerts à distance. C'est la même chose avec les SMS sur le téléphone. L'email, au début, a été pensé pour ça. Internet a été pensé pour la communication entre les académiques et pas du tout pour avoir du Facebook ou YouTube aujourd'hui. Et ça, c'est un message important qui est de se dire c'est difficile de prévoir en quoi une technologie est pertinente, comment elle sera utilisée. Et par rapport à cette question des médias géolocalisés, peut-être justement les premiers usages qu'on a imaginés, de savoir où sont les autres, de répondre à cette question du TU, sont peut-être un peu trop basiques, un peu trop simples. Un exemple que je trouve moi assez fascinant, c'est tout ce qui se fait autour de l'agrégation de données géolocalisées à partir des téléphones portables, donc de ne pas prendre la position d'une seule personne, mais de prendre des flux de personnes et de voir où les masses se déplacent dans l'espace urbain. Ce genre de choses, à première vue, il y a certains artistes qui ont fait des représentations, des cartographies très jolies, des déplacements des foules, mais si on regarde ça de plus près, on peut se dire qu'il y a des services réellement intéressants qui pourraient être proposés et qui pourraient servir aux acteurs de la ville pour fluidifier le transport, pour montrer des nouvelles signalétiques qui pourraient fluctuer en fonction des déplacements des gens dans l'espace, qui pourraient montrer là où les gens ne vont pas, parce que peut-être c'est intéressant d'aller visiter les endroits de la ville qui ne sont pas explorés, et donc de ne pas prendre la géolocalisation au pied de la lettre. Quelle est notre géolocalisation en tant qu'individu, mais en termes de foule, et donc de concevoir des services autour de ça. On commence à voir des expérimentations qui se passent dans certains laboratoires de recherche ou chez certains designers qui utilisent la géolocalisation pour un enjeu qui est très important, qui est plus celui du développement durable et favoriser l'utilisation de modes de transport un peu plus doux que la voiture. J'avais vu des projets qui essayaient en fait, de pousser les gens à la multimodalité, d'utiliser plusieurs modes de transport, pas seulement la voiture, mais la marche, le métro, le bus, avec des technologies de géolocalisation qui leur indiquaient à quel endroit il pouvait y avoir quel mode de transport. Et ça me semble justement très intéressant, et ça se passe pas forcément dans les terrains les plus connus, et il faut aller chercher et creuser un peu ces scénarios d'usage pour imaginer des propositions potentielles intéressantes.
Et des scénarios qui permettraient de nous rencontrer aussi, parce que c'est aussi le but.
Exactement. Il y a quelque chose qui me fascine, moi, avec ces médias géolocalisés, c'est qu'il y a souvent des propositions de se dire on va favoriser ce qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire la rencontre un peu impromptue entre des personnes qui se connaissent. Mais malheureusement, la plupart des scénarios, c'est vous remplissez votre profil sur un site web ou sur un téléphone mobile, et après on va vous mettre en relation avec des gens qui ont le même profil. Donc vous êtes un fan d'une certaine équipe de football, et vous allez pouvoir être au courant de où sont les joueurs les autres personnes d'une même équipe de football. Pour moi, c'est pas du tout ça, la sérendipité. Pour moi, c'est vraiment de mettre des gens en relation sur des choses qui ne les relient pas forcément et de créer de la surprise. Peut-être justement des équipes de foot différentes. Enfin, ça, je sais pas si c'est un bon exemple. Mais pour favoriser le vivre ensemble dans la ville, pour favoriser la diversité, il faut au contraire se confronter à l'altérité. Donc, moi, ça me semblerait plus intéressant d'imaginer des services qui essayent de mettre en relation des gens via la géolocalisation, par exemple, qui sont complémentaires, qui s'intéressent peut-être à des sujets un petit peu distants, pour leur montrer que d'autres gens existent dans la ville, et pas forcément de baser un service sur des communautés, des tribus qui restent ensemble, et puis après on ne se parle plus, et ça c'est quand même un problème.
La fameuse sérendipité, qui n'est toujours pas dans le dictionnaire, je crois, le petit Larousse. Merci à Nicolas Nova qui signait Les médias géolocalisés, paru aux éditions FIP.